Ça marche? Très bien. Merci Pierre, merci pour l'invitation et merci d'être venu. C'est un plaisir de parler de quelques aspects de notre travail sur l'interaction entre l'émotion et la cognition chez les personnes âgées. Comme Pierre a dit, je suis professeur de psychologie de vieillissement cognitif ici à la FAPC. Mais depuis cette année, je suis également directeur de ce centre-là, CIGEF, qui est le co-leading house du pôle de recherche national LIFES. C'est un centre de recherche entre Lausanne et Genève où on étudie les effets du stress sur le fonctionnement, sur le développement autour de la vie. Donc, dans ce centre et dans mon équipe, on utilise une approche d'une psychologie lifespan. Donc, je suis chercheur sur le vieillissement, on essaie de comprendre les processus développementaux d'une perspective lifespan. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, une approche sur le développement qu'on adopte, c'est d'essayer de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui se développe, quand, comment et pourquoi? Et dans plusieurs domaines de développement, on attaque des sujets de développement cognitif, émotionnel, social, des choses qui se développent. Et on essaie d'identifier des phases de développement et de décrire les trajectoires. Est-ce qu'il y a des processus plutôt des gains, des pertes, de la stabilité? Et la dernière question est la question la plus importante, à mon avis, c'est la question sur les mécanismes. Pourquoi on trouve ces processus de changement et de la stabilité? Je vais vous présenter quelques exemples dont ce champ de recherche dont l'interaction sur les émotions et le vieillissement cognitif et quels sont des sujets clés qui sont abordés dans ce domaine-là. Il y a une review très bien faite. Si ça vous intéresse un peu plus en détail, je peux vous envoyer, si vous m'envoyez un email. C'est un papier qui décrit vraiment tout le champ dans ce domaine-là. Donc on aborde l'intelligence émotionnelle, la sagesse, la prise de décision émotionnelle, la réactivité émotionnelle, la régulation des émotions, le traitement des informations émotionnelles, toutes les questions liées à ces thèmes. Et dans cette présentation, je vais parler un peu plus en détail sur ces cinq sujets, la régulation des émotions, le traitement des émotions, les informations émotionnelles, la mémoire des émotions, les effets de l'humeur et les effets du stress. Donc, pour commencer, je veux bien discuter un peu avec vous quelles sont les trajectoires principales dans ces deux domaines. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes sur le développement des ressources cognitives, les ressources émotionnelles? Et je vais solliciter mon cher collègue de nous montrer son...
Alors, les ressources cognitives, si j'en juge par moi-même, ça va faire comme ça. Ça va monter, puis...
Ça commence assez tôt de... Ouais, chuter.
Oui, c'est ça.
À ton avis, à ton expérience.
Ah ouais, expérience. Les ressources émotionnelles... croissant comme ça.
D'accord, ok. Donc, merci bien. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? C'est une fameuse courbe U inversée, normalement. Donc, on va voir, c'est pas exactement comme ça dans tous les domaines, mais ça, c'est un peu ce qu'on attend par rapport aux ressources cognitives. Et ça, c'est plutôt ce qu'on attend sur les ressources émotionnelles. Vous en avez déjà parlé sur les ressources émotionnelles chez les bébés. Et moi, je veux bien discuter avec vous ce parti-là. Et la question principale est, est-ce que les deux trajectoires sont indépendantes ou est-ce qu'il y a des relations entre les deux? Dans une première partie, je vais vous présenter quelques résultats clés qu'on a trouvés dans ce domaine de recherche. Et dans une deuxième partie, je vais vous présenter quelques résultats de nos propres études où on a étudié exactement cette question-là. Donc, un phénomène très très connu dans ce domaine qui montre une certaine stabilité dans les ressources émotionnelles, c'est le paradoxe de bien-être. Donc là, on trouve dans plusieurs études que le niveau de bien-être reste relativement stable entre les personnes mi-âgées, les jeunes âgés et les âgés âgés. Là, on trouve de temps en temps une certaine déclin, mais ce n'est pas vraiment très, très, très grand. Et on a un niveau très, très stable par rapport au bien-être même. Si on trouve les maladies augmentent, les difficultés fonctionnelles augmentent, mais le niveau de bien-être reste relativement stable. Pourquoi les personnes âgées peuvent garder ce niveau-là? Vous avez une idée? Quelles sont les ressources qu'ils utilisent pour garder un niveau de bien-être malgré de leur déficit fonctionnel, physique, des maladies qui augmentent?
La sagesse.
Voilà, la sagesse. Et qu'est-ce que ça donne par rapport à la stabilité?
Plus de tolérance.
Oui, plus de tolérance à traiter. Voilà. OK. Mais
vous voulez dire que même si les gens sont malades...
Oui. Tout à fait. On a fait, quand j'étais à Heidelberg pour mon doctorat, on a étudié une cohorte de centenariens et là on a trouvé personne sans des maladies. Donc les gens ont eu des entre 2 ou 3 maladies jusqu'aux 12. Mais on a toujours trouvé un niveau de bien-être relativement élevé avec un petit déclin, mais ça reste. Donc une proposition, la sagesse qui nous donne la possibilité de changer un peu les regards sur les choses, peut-être. Votre proposition?
Peut-être qu'ils ont une perspective sur la vie différente, en fait. Sur le temps aussi qu'il leur reste.
Oui.
On va voir la vie d'une autre façon.
Oui.
Ils relativisent peut-être et vont peut-être plus d'importance à d'autres choses.
Oui. Très bien. Et ça, c'est exactement ce qu'on trouve. C'est ce qu'ils changent. Donc, les choses qui changent sont la manière d'adapter aux défis liés à l'âge. Donc, dans ce modèle-là, on fait une distinction entre 2 processus de l'adaptation. On dit contrôle primaire ou contrôle secondaire. Et contrôle primaire, c'est plutôt attaque. Donc, on a un déficit et on essaie de changer ça. On a une maladie, il faut trouver une médecine pour changer, pour rester dans un état qu'avant. Et un deuxième processus, contrôle secondaire, ce qu'on fait ici, c'est plutôt réévaluer les choses. Donc, on accepte plutôt les défis, les points négatifs et on utilise la sagesse, notre regard sur la vie, des idées différentes pour réévaluer. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on utilise toujours, tout le monde utilise ces 2 stratégies, mais l'importance relative change autour de la vie. Donc, les personnes âgées utilisent plutôt cette stratégie-là. Qui leur permet de garder un certain niveau de bien-être malgré des points négatifs par rapport à leur santé, par exemple. Voilà, on a déjà parlé de cette mystère, la sagesse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très souvent attribué comme un point positif lié à l'âge. Donc, dans cette étude, on a demandé aux gens à quand vous pensez à plusieurs qualités sont développées et est-ce que ces qualités sont vraiment souhaitées ou pas. Quelqu'un peut me montrer où la sagesse peut apparaître dans ce graphique. Voilà, donc c'est lié à l'âge et c'est souhaité. Voilà, exactement. C'est où on trouve cette qualité, c'est plutôt là. On a aussi, bien sûr, des qualités qui sont liées à l'âge, qui sont un peu moins positives, comme on oublie des choses. Par exemple, allumer ce truc-là. Mais avec les aides,
ça peut y arriver. Ça peut aussi améliorer la qualité si on oublie.
Tout à fait, absolument. Donc, ça peut être une mesure contrôle secondaire. Hein. Voilà. Donc, la sagesse est très, très associée à l'âge. Qu'est-ce qu'on sait par rapport à la recherche sur le développement de la sagesse? Il y a pas mal d'études qui ont étudié les courbes développementaux par rapport à la sagesse. Et qu'est-ce qu'on trouve? Il y a une grande variabilité interindividuelle, mais malheureusement, la sagesse, au moins dans ces études, n'est pas lié à l'âge automatiquement. Donc il y a des gens, si vous regardez, ou si vous pensez à vos collègues, des gens que vous connaissez, donc il y a probablement aussi des personnes âgées, très très sages, mais aussi peut-être des exemples contraires. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est plutôt lié à l'expérience. Donc il y a aussi des gens un peu plus jeunes qui ont fait des expériences un peu plus critiques, qui sont un peu plus probables de développer cet aspect de sagesse. Et limite ce type d'étude, là on étudie normalement plutôt les connaissances qui sont liées à la sagesse. Donc on donne des problèmes aux gens qui ne sont pas vraiment des problèmes avec une solution facile et on observe quelles solutions sont développées par les participants. Si on donne une réponse très très courte, un peu plus non réfléchie, c'est pas possible comme ça, ou il faut faire exactement comme ça, ou si on développe des facettes. Donc ça c'est un résultat empiriquement, au moins la sagesse n'est pas automatiquement liée à l'âge. Mais bien sûr, ces mécanismes d'adaptation sont liés à l'âge. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise autour de la vie pour s'adapter aux défis liés à l'âge. Voilà, donc des questions générales qui sont abordées dans ce domaine-là sont les questions suivantes. Est-ce que le vieillissement émotionnel diffère du vieillissement cognitif? Et est-ce qu'il y a des différences d'âge dans les traitements d'informations émotionnelles? Comment on traite les informations émotionnelles? Et comment nos humeurs, des états émotionnels, comment ils sont liés à notre comportement? Une théorie qui est très connue dans ce domaine-là, c'est la théorie de sélection socio-émotionnelle développée par une collègue Laura Carstensen aux États-Unis, qui propose trois principes. Donc, dans ce modèle-là, ça a été proposé qu'il y a un changement des motifs dans la durée de vie. En général, il y a deux motifs généraux, accumuler du savoir, donc c'est knowledge trajectory, donc essayer d'apprendre des choses, de se développer personnellement d'une certaine manière. Et le deuxième motif, garder de la stabilité émotionnelle. Ils ont trouvé, ils ont proposé, et dans plusieurs études, ils ont trouvé l'évidence en accord avec cette proposition, que ces deux motifs changent autour de la vie. Et chez les personnes âgées, le support émotionnel, la stabilité émotionnelle, c'est un motif plus important que développer, accumuler ses connaissances pour des tâches de la vie quotidienne. Et ce qu'ils ont aussi proposé, c'est un effet très, très souvent étudié, c'est la proposition que chez les personnes âgées, il y a un focus général sur l'information positive. Donc l'idée est, avec ce changement de ce motif-là, les personnes âgées se focalisent plus souvent, plus attentivement sur les émotions positives, sur les aspects positifs en général. C'est la théorie. Quels sont les résultats empiriques qu'on a trouvés dans la littérature et nous-mêmes? Donc, plusieurs résultats initiaux. Donc, dans plusieurs études, au début de cette tradition de recherche, on a seulement demandé aux gens quelles sont vos émotions actuelles. Ils ont eu des journaux quotidiens, ils ont rempli des questionnaires. Et ce qu'on trouve dans plusieurs études est que les émotions positives sont plus souvent mentionnées chez les personnes âgées. Il y a une forte réduction des émotions négatives mentionnées dans ces journaux ou ces questionnaires. Donc c'est la première évidence que peut-être c'est vraiment comme ça, que les émotions positives sont sur le focus des personnes âgées. Et ce n'est pas seulement cette augmentation, c'est aussi une réduction par rapport aux émotions négatives qui sont mentionnées dans ces études. Est-ce que c'est plutôt une...
Est-ce que c'est la fréquence?
C'est la fréquence et aussi l'intensité. Donc là, on a quelques questionnaires et on laisse... On peut lister les émotions qu'on a actuellement. Et on peut mesurer la fréquence des émotions positives qui sont mentionnées et aussi l'intensité. Mais la question, c'est est-ce que ça, c'est plutôt un sentiment ou est-ce qu'il y a des processus fondamentaux qui sont associés à ça? Et dans cette tradition-là, on a étudié s'il y a des biais attentionnels dans les situations où il faut traiter les émotions, les informations. Et dans ça, c'est une étude exemplaire, mais il y a des études très, très similaires dans ce domaine-là. On a montré des images ici, des visages, mais il y a aussi des études qui ont utilisé des photos des animaux ou des choses similaires. Et on a mesuré avec des moyens techniques comme les eye trackers où on peut regarder si on regarde une certaine information sur l'écran ou pas. Et ici, on voit s'il y a une tendance plutôt de focaliser, regarder aux choses ou de détourner le regard. Donc, vraiment... regarder d'autre part. Et là, on voit chez les personnes jeunes, il y a une certaine tendance de ne pas regarder vers les aspects négatifs, mais ça, c'est beaucoup plus forte chez les personnes âgées. Si ils voient des images positives, il y a une tendance de vraiment focaliser là-dessus. Et si on voit des aspects ici, des visages négatifs, il y a une forte tendance de détourner son regard, de ne pas regarder. Donc, ils ont proposé, avec cette famille des études, qu'il y a un processus très, très fondamental qui est lié à l'âge de sélectionner les informations plutôt positives et éviter les informations négatives. Un troisième effet très souvent utilisé preuve pour cette tendance de positivité est un test de la mémoire les deux à court terme et à long terme, où on a donné des informations plutôt positives ou négatives à mémoriser, comme ces photos sont très très connues dans cette recherche, possiblement vous en avez déjà parlé pendant une des présentations précédentes. Ce sont des IEPS pictures où on a des photos un peu standardisées. Ça, c'est plutôt positif, j'imagine, pour la majorité d'entre vous. Et ça, c'est probablement plutôt négatif. Donc, on a une série des informations comme ça. Et on donne une série des informations à mémoriser. Et après un certain délai, on demande aux gens de rappeler. Et qu'est-ce qu'on trouve normalement dans ces études-là? On trouve chez les personnes jeunes que les informations positives et les informations négatives, donc les informations émotionnelles, sont mieux mémorisées que les informations plutôt neutres. Autour de la vie, ce pattern change un peu. Et là, on voit que chez les personnes âgées, c'est davantage des informations émotionnelles et plutôt gardées pour les aspects positifs, tandis que les informations négatives sont un peu dans le même niveau de mémoire. Donc là, c'est notre pattern qui a été trouvé pour l'évidence, pour cette idée de l'effet de la positivité chez les personnes âgées, que ce traitement préférentiel des informations émotionnelles, c'est plutôt gardé pour les informations positives. Donc, dans ce contexte-là, on a mené quelques études nous-mêmes dans mon équipe sur lesquelles je veux bien parler dans cette deuxième partie de cette présentation. Donc les questions ouvertes actuellement discutées dans cette littérature, c'est par exemple sur l'effet de la positivité qui propose qu'il y a un traitement différentiel de l'information émotionnelle au cours de la vie. Et la question, c'est vraiment, est-ce que ça existe vraiment dans la vérité ou c'est plutôt une réduction de l'effet de la négativité et pourquoi? Et par rapport à cette théorie dont j'ai brièvement parlé, il y a l'hypothèse de la pertinence fonctionnelle. Donc ça, l'idée, c'est que ça sert à quelque chose. C'est fonctionnel. Donc ça nous aide comme personne âgée si on focalise sur les aspects positifs. Et quelles sont les données qu'on a trouvées concernant l'avantage d'un traitement préférentiel de l'information positive versus négative. Voilà, donc je vais vous présenter deux lignes de recherche qu'on a abordées dans mon équipe. La première, sur les effets de la saillance émotionnelle de la cible sur la performance et la mémoire prospective liée à l'âge. Et deuxième ligne, l'effet de l'humeur et l'induction du stress, de la régulation des émotions sur l'exécution liée à l'âge des tâches cognitives, aussi la mémoire prospective. Donc le domaine cognitif dont je vais parler, c'est la mémoire prospective. Qu'est-ce que c'est? Vous avez eu un joli exemple au début de cette présentation. Donc, mon cher collègue Pierre a dû se rappeler d'allumer ce petit microphone-là. Donc, la capacité de se souvenir d'initier et effectuer des actions prévues à un moment spécifique dans le futur, ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire prospective. Donc, vous tous, ont eu des expériences probablement dans votre vie. Qui a jamais oublié de rappeler quelqu'un pour son anniversaire ou d'acheter quelque chose en rentrant à la maison? Ça arrive souvent. Donc, on oublie tout le temps de faire quelque chose. Donc, par exemple, si on peut faire gâteau, normalement, il faut faire sortir après un certain temps, si on oublie. C'est pas joli. Il y a des conséquences relativement fortes. Ou il faut se souvenir de prendre des médicaments 2-3 fois par jour peut-être, d'une manière régulière, d'une manière un peu plutôt singulière. Donc, mais chaque fois, il faut activer notre mémoire prospective. Normalement, on ne reste pas assis en face de four. Hein. On attend 20 minutes. Donc, on fait quelque chose. Donc, dans la vie quotidienne, on est engagé dans une tâche en cours. Et dans le en labo, ce qu'on fait, on crée une tâche en cours qui va nous faire distraire. Pendant, il faut se rappeler à la tâche de la mémoire prospective. On sait de plusieurs études, on a fait dans mon équipe plusieurs études là-dessus, il y a un déclin lié à l'âge. Donc, dans une grande partie de ces tâches, on a un peu plus de difficultés avec la mémoire prospective comme personne âgée. Mais ce qu'on ne sait pas, quels sont les effets émotionnels sur la performance. Malgré qu'on a probablement des théories un peu internes. Quelles sont vos attentes? Est-ce qu'on oublie plus souvent les tâches émotionnelles ou pas? Ou on se souvient plus souvent? Donc, l'hypothèse, c'est un avantage s'il faut se souvenir d'une tâche émotionnelle. Par rapport à la question de l'influence de l'humeur, vous oubliez plus souvent, moins souvent, si vous êtes dans une bonne humeur ou pas, ou mauvaise humeur. Cette partie-là, vous avez une idée? Vous en pensez? Voilà. Oui, donc si on est fatigué, c'est encore un autre état. Si vous êtes dans une mauvaise humeur, vous oubliez plus souvent ou ça?
Je pense que dans une mauvaise humeur, on fixe ce qui nous dérange. On est préoccupé, donc on oublie aussi.
Il y a une distraction des causes de cette mauvaise humeur. Ok? Et bon, bien sûr, ça c'est l'explication la plus souvent on entend. Si vous avez oublié de faire ça, non, j'étais trop stressé, j'ai oublié. Et ce sont des effets plutôt généraux. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'influence de l'âge? Donc, les personnes âgées, ils montrent exactement les mêmes effets ou est-ce qu'il y a des différences entre les adultes jeunes et les adultes âgés par rapport à ces trois effets? Ils ont plus ou moins affecté par le stress ou par l'humeur? Ou c'est la même chose?
Est-ce qu'on peut dire que les personnes âgées sont plus stressées, vraiment?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Mais si... imaginons on a le même niveau de stress. Quels sont... Oui?
Ici.
Et qui se passe?
Donc, il y aurait plutôt une interaction dans le sens positif pour les personnes âgées qui seraient moins affectées. Mais je ne sais pas si on pourrait l'attribuer plutôt à une perte de ressources cognitives. Donc, ils ont moins la capacité de fixer sur le négatif et donc ils sont plus libres pour...
Oui, ok.
C'est sans doute très compliqué, il y a effectivement des interactions, mais ce que tu disais à propos de l'augmentation de la stabilité émotionnelle, ça doit jouer un rôle quelque part.
Imaginons, on a le même, on arrive à provoquer le même niveau de mauvaise humeur, bonne humeur, stress.
quels sont les résultats par rapport à la performance suivante.
C'est une question de contrôle de l'émotion.
Voilà. Les personnes âgées sont
peut-être, elles ont plus l'habitude de contrôler.
Voyons ce qu'on a trouvé. Voilà. Donc, commençons avec la première ligne de recherche, l'effet de la saillance émotionnelle de la cible sur la performance de la mémoire prospective liée à l'âge. Donc, l'idée ici, c'est que la saillance émotionnelle réduit les besoins de surveillance, on dit monitoring en psychologie, dans les tâches mémoire prospective, parce qu'ils attirent l'attention d'une manière plutôt automatique. Donc, si on voit des choses plutôt émotionnelles, on a vu qu'il y a une tendance de regarder des choses positives. Donc ça peut possiblement attirer l'attention par rapport aux choses négatives. On pourrait dire, peut-être c'est l'inverse, parce qu'on a vu qu'il y a une tendance de ne pas regarder vers cette information. On verra ce qu'on a trouvé. Mais cette... c'est davantage de traitement des informations émotionnelles doit soutenir en particulier les populations avec un niveau faible de ces ressources cognitives. Et seulement pour des collègues, ça c'est notre modèle de recherche qu'on a développé pour tester ces propositions. Donc l'idée, dans la tâche mémoire prospective, il faut former une intention, il faut stocker, garder cette... intention pendant on est impliqué dans une tâche en cours, et si le moment, l'événement, le temps arrive, il faut se rappeler à exécuter cette intention. Mais pour ne pas rater ça, il faut regarder un peu, il faut vérifier, il faut surveiller l'environnement pour ne pas rater cette occasion. Et si, et ça c'est l'idée, ces événements qui sont les événements cibles pour indiquer, c'est le moment maintenant, il faut arrêter, il faut exécuter cette intention. Si c'est émotionnel, l'idée c'est plus facile à réaliser. Voilà. Une des premières études dans ce domaine-là a été faite par un ancien postdoc de ma, qu'on était à Dresde, en Allemagne, Marijke Uitkassen, qui est maintenant un professeur aux Pays-Bas. Et on a testé l'hypothèse générale que moins d'attention exigée pour la détection de la cible de la mémoire prospective grâce à la saillance augmentée de la cible. On a testé dans cette étude... un groupe des jeunes adultes et un groupe des adultes âgés. Et on a créé une situation au labo qui est un peu similaire à cette situation dans la vie quotidienne. On a une activité en cours où, dans cette expérience-là, il a fallu de faire une tâche one back, on dit. C'est... la tâche relativement simple de comparer des stimuli s'ils ont le même qu'avant. Et dans ce cas-là, one back, un stimulus avant. Donc ici, c'est non, sinon, c'est pas que F, c'est pas G, et G, G. Donc ici, il faut dire oui. Donc ça, c'est une activité pas trop difficile, mais ça, il faut se concentrer. Et dans cette tâche, on a caché un peu... des aspects émotionnels. Donc on n'a pas utilisé les lettres, on a utilisé des stimuli émotionnels, donc des photos de cette base de photos, donc des choses plutôt positives ou négatives. Donc et la tâche était plutôt de dire si l'image est le même qu'avant, et en plus il a fallu de se rappeler de appuyer sur une touche, sur la touche espace, si on a vu certaines images cibles qu'on a identifiées avant comme tâches qui sont les cibles, comme items qui sont les cibles qui, pour exécuter cette en tension. Et là, il y avait des images négatives, neutres et positives, cachées un peu dans les autres images négatives. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que seulement avec les cibles neutres, on a identifié l'effet de l'âge traditionnel avec les jeunes adultes avec une performance plus haute que les personnes âgées, si ils ont dû détecter les cibles émotionnelles, l'effet de l'âge a été éliminé. Et ça, c'est vrai pour les deux dimensions de valence. Donc, c'est pour les images positives et pour les images négatives, l'effet qu'on trouve normalement par rapport à la mémoire prospective a été éliminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aussi dans la mémoire prospective, on trouve cet effet de la mémoire augmentée avec les stimuli émotionnels. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de preuve pour une positivity bias ici. Donc cet effet a été montré aussi pour les aspects négatifs. Et par rapport à l'âge, c'est intéressant si vous comparez les deux colonnes, jeune adulte et adulte âgé, on voit seulement les différences pour les adultes âgés. Pour les adultes jeunes, il n'y avait pas grand-chose. Mais les adultes âgés ont vraiment profité de ces informations émotionnelles. Les stimuli sont relativement forts avec les photos. Donc on s'est dit peut-être que c'est vraiment très 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 fort, c'est peut-être trop fort. Donc dans une autre étude, on a attaqué ça avec un paradigme un peu similaire, mais avec des mots qui sont traités d'une manière un peu implicite presque, pour voir si cet effet peut être trouvé aussi avec une manipulation un peu moins forte. Le design était relativement similaire, mais cette fois on n'a pas utilisé des photos, mais plutôt des mots, dans une tâche un peu différente. Donc les participants ont vu quelques carrés colorés, et après ils ont vu un mot coloré aussi, et la tâche en cours était seulement d'identifier si ils ont vu cette couleur-là avant. Le mot comme mot n'a pas eu vraiment la significance pour la tâche. Mais pour la tâche mémoire prospective, là on a dit si pendant ces mots, vous voyez certains mots cibles, et ces mots étaient les mots positifs, négatifs ou neutres. Et avec les mots, on peut équilibrer un peu plus facilement d'autres dimensions comme l'excitation, la facilité, fréquence, blablabla. Donc là, il faut se souvenir d'appuyer sur la touche d'espace pour exécuter cette tâche mémoire prospective. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Donc les faits vont dans la même direction, mais ne sont pas exactement les mêmes. On voit que l'effet entre les jeunes et les âgés est encore une fois le plus grand avec les stimuli neutres. Et cet effet n'est pas éliminé, mais réduit avec les stimuli négatifs et positifs. Et encore une fois, on voit que ces informations sont pertinentes apparemment plutôt pour les personnes âgées. Donc pour les jeunes, le niveau de performance reste relativement stable, mais le niveau de performance chez les personnes âgées est relativement faible dans la condition neutre, qui est, en parenthèse, la manière de tester la mémoire prospective ou la mémoire normalement au labo. Donc ça, c'est notre condition standard. Et possiblement, en évitant les effets émotionnels, normalement, au labo, on sous-estime un peu la performance. Donc on peut augmenter dans cette étude, pas dans la manière qui va faire éliminer cet effet, mais c'est fortement réduit dans cette étude. Donc les cibles émotionnelles peuvent influencer la performance de la mémoire prospective, et encore une fois, c'est plutôt un effet qu'on observe chez les personnes âgées. Voilà, première ligne de recherche où on a testé l'effet émotionnel dans les tâches nestiques. Une autre dimension pour étudier les interactions entre l'émotion et cognition, c'est pas seulement regarder les valeurs des informations, il faut traiter, mais d'étudier l'état d'humeur, l'état du stress, l'état d'une personne. Et là, on a fait plusieurs études où on a manipulé pas l'émotionnalité des stimuli, mais l'émotion chez les personnes pour faire suivre une étude qu'on a menée quand j'étais à Zurich, en fait, où on a trouvé chez les personnes jeunes que l'humeur négative réduit la mémoire prospective basée sur le temps. Ça veut dire se rappeler à faire quelque chose après 3 minutes, après 5 heures, après 20 minutes, donc c'est l'exemple de gâteau. Dans d'autres études des collègues en Allemagne, ils ont trouvé un peu des choses un peu similaires, mais de temps en temps un peu différentes. Ils ont trouvé que l'humeur négative augmente la mémoire prospective basée sur l'événement. Donc ce sont des tâches où il faut réagir à un certain événement. Lorsqu'on voit quelqu'un, il faut se rappeler de retourner un livre, par exemple. Et que l'humeur positive détériore la mémoire prospective. Donc peut-être il y a un effet différentiel par rapport à la qualité de l'émotion. On sait que les personnes âgées ont des ressources attentionnelles limitées, donc possiblement la régulation des émotions est un processus coûteux qui va utiliser nos ressources attentionnelles parce qu'il faut réévaluer la situation, et possiblement ça c'est un peu plus difficile pour les personnes âgées. Mais on a aussi des résultats qui montrent possiblement les personnes âgées sont mieux dans ces processus. Donc même si c'est un processus coûteux, comme on est expert par rapport à la régulation d'émotions comme personne âgée, possiblement c'est plus facile parce qu'on a plus d'expérience. On revient à la sagesse. Donc ça c'est peut-être un aspect de la sagesse, pas seulement trouver des solutions complexes et différenciées aux problèmes, mais possiblement utiliser ces ressources de la régulation émotionnelle. Un aspect, en parenthèse, encore une fois, qui n'est pas tellement étudié dans le contexte de la sagesse. Voilà. Donc, dans ce contexte, les questions ouvertes étaient est-ce que l'induction d'humeur a des effets liés à l'âge, la performance de la mémoire prospective basée sur le temps, et pourquoi? Quels sont les mécanismes? Ça n'a été pas abordé dans les études avant. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude? C'est une série d'études qui a été faite avec Katharina Schnitzmann, une ancienne collaboratrice ici à Genève, qui est maintenant en Écosse, dans son premier position académique. L'étude ici a été faite avec un peu le même design, un groupe jeunes adultes, un groupe personnes âgées. Et l'humeur était provoquée chez ces sujets. Positif, négatif versus neutre. Comment on peut faire ça? d'une manière standardisée pour arriver à un niveau un peu comparable. Il y a plusieurs méthodes. Une méthode qu'on a utilisée assez souvent, c'est de leur montrer des extraits de films qui sont relativement standardisés. Donc il y a plusieurs vidéos qui sont pilotées, des histoires positives, négatives. Et si vous pensez que le temps est positif ou négatif, c'est à vous de décider. Actuellement, c'est un peu négatif peut-être, mais normalement, c'est relativement neutre si on regarde ces images pendant un certain temps. Donc, on montre ces vidéos avec une certaine musique. Et après, avant et après, on mesure l'humeur pour vérifier si ça a vraiment changé l'humeur chez les personnes. Et après, on leur donne une tâche classique, neutre, pour mesurer la mémoire prospective. Donc, cette étude-là, c'est encore une fois cette idée de one back. Donc, il faut vérifier si c'est le même, ou c'est deux backs dans ce cas-là, si c'est la même chose que deux items avant. Et donc, cette tâche était une tâche time-based, comme faire sortir le gâteau, appuyer sur la touche espace tous les deux minutes. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, au début, les gens sont venus avec l'humeur plus ou moins comparable. Après, ils ont vu les vidéos négatives, neutres, positives. Les jeunes et les âgés ont changé dans la direction attendue. Et on a aussi, à la fin de cette expérience, on a encore une fois mesuré l'humeur. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a trouvé? Ils ont resté, ils ont augmenté, ils ont rentré à la base. Et est-ce qu'il y avait des différences entre les jeunes et les âgés?
C'est ce que je fais avec les étudiants et ils détestent.
Ah, je pense que les jeunes. En fait, c'est quoi la différence entre le post-mesure et le final mesure?
Ça, c'est après les vidéos, ouais. Et ça, c'est à la fin, après la tâche même en prospective. Donc, c'est avant la tâche. Et après les vidéos. Donc là, on a, ils ont venu, ils ont vu les vidéos, ouais. Et là, ils ont fait la tâche, et après, avant de sortir, on a mesuré. Donc après les vidéos et avant la tâche, on a réussi à provoquer une certaine humeur en lien avec ces vidéos. Mais la question, est-ce que ça change ou ça reste stable pendant la tâche et puis aller.
La tâche va être de la façon d'agir
avec le public. Les
âgés, ouais. Pour les émotions négatives,
notamment.
Ouais. Et les jeunes, ils restent stables.
Voilà, excellent. Très bien. Donc, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc, les jeunes vont rester relativement stables. Et les personnes âgées sont revenues un peu au niveau initial. Donc, ils ont, ça c'est une évidence initiale qu'ils ont réussi à régler leurs émotions, au moins pendant cette période. Qu'est-ce que ça veut dire pour la performance dans la tâche mémoire prospective? Donc, ça c'est encore une fois la précision dans cette tâche. On voit que les jeunes montrent la performance, une performance réduite dans les deux conditions d'émotion. Donc ici, ce sont les jeunes qui souffrent et les âgés restent sur un niveau plus bas, en général, mais ils ne sont pas affectés par ce changement d'humeur. Donc l'effet d'humeur est observable seulement chez les personnes jeunes. Et c'est la même chose pour l'humeur positive et négative qui diminue la performance chez les jeunes, mais pas chez les personnes âgées. Pourquoi ? Possiblement à cause de cette compétence ou cette régulation d'émotions plus efficace chez les personnes âgées. Donc ça confirme, et on l'a dit, les résultats qu'on a trouvés chez les personnes jeunes. Il y a un effet des émotions générales. Il n'y a pas d'effet d'humeur chez les personnes âgées. Et comme vous avez déjà spéculé, ça peut être parce que les personnes âgées montrent une régulation émotionnelle moins coûteuse ou plus efficace. On ne sait pas. Ça, c'est un résultat où on fait des études suivies actuellement. Qu'est-ce qu'on sait sur le stress? Dernière étude que je vous montre. On a utilisé un paradigme relativement pareil. Donc là, on n'a pas... Comment on peut provoquer du stress? Émotionnel plutôt.
On fait parler quelqu'un de lui.
Des propositions?
Oui. Si on a peur de montrer stressé,
Oui. Oui. Donc ça c'est une procédure très connue, c'est le Trier Social Stress Test, ça a été développé par un collègue Clemens Kirschbaum en Allemagne, qui est très très performant. Donc si vous voulez stresser quelqu'un, faites-le, ça marche très bien. Donc, l'idée c'est l'élément des évaluations sociales. Donc ce qu'on demande aux gens, c'est relativement facile. Donc, ils ont demandé de faire une petite présentation pendant 5 minutes avant un comité pour se présenter pour un job. Mais c'est interdit de parler sur les choses techniques. Je peux le faire parce que je suis un bon mathématicien, les choses comme ça, mais c'est plutôt, il faut souligner ses compétences personnelles. Donc ils doivent présenter leurs compétences plutôt personnelles. Et avant un comité, c'est fumé, mais c'est pas vrai, mais on dit c'est fumé. Et la chose la plus stressante, ils ne donnent pas de feedback. Ils restent comme ça. Ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible parce qu'on est un peu habitué à. C'est pas grave, on fait une erreur, mais ils restent comme ça. Et deuxième partie, c'est calculer des choses avant ces comités. Et si on fait une erreur, encore une fois, s'il vous plaît, il faut vraiment... Et ça, c'est vraiment très stressant. On a mesuré dans cette étude-là les émotions plutôt subjectives avec des questionnaires, mais aussi d'une manière physiologique. On a mesuré le cortisol, hormone du stress, avec une régime très standardisé. Et on a donné une tâche de la même perspective qui est un peu la même idée qu'avant. On a des tâches MBEC et de temps en temps on trouve une cible qui est dans cette étude-là aussi variée par rapport à la saillance. Donc dans cette tâche, il a fallu de détecter des carrés jaunes et de temps en temps il y avait des carrés jaunes comme ça et des carrés jaunes un peu plus... visible. Et c'est une procédure très très compliquée mais très très standardisée où on a un moyen de stresser d'une manière objective les personnes. Donc on donne plusieurs fois les questionnaires, les salivettes, on explique la tâche, il y a un temps de préparation. Et après, on donne la tâche de mémoire prospective. Après, ils ont fait ça. Il y a une petite pause. Parce que l'hormone de cortisol, ça fait entre 10 et 20 minutes d'augmenter. Donc il faut attendre un petit peu pour avoir une fenêtre où le cortisol est le plus élevé. Voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on a réussi à changer l'humeur, le stress chez les participants? Ça c'est le mesurement subjectif, ça c'est plutôt objectif cortisol. Et là, vous voyez que ça c'est une condition contrôle. Ils ont fait quelque chose un peu similaire, mais il n'y avait pas un comité. Ils ont pu parler de n'importe quoi. Et ils ont eu une tâche arithmétique un peu plus facile, mais sans comité, sans camarade. Et on voit que les deux groupes d'âge sont relativement pareils, de manière pareille, stressés. Et on montre aussi que où, pendant la fenêtre où on donne la tâche mémoire prospective, le niveau de cortisol était le plus élevé là-bas. Donc on a réussi de changer le niveau du stress chez les personnes âgées et chez les jeunes. Qu'est-ce qu'on a trouvé par rapport à la performance mémoire prospective? Et là, on voit il y a un effet relativement clair de science. Donc, c'est plus facile de détecter les cibles saillantes que les cibles non saillantes. C'est un peu normal. Mais chez les jeunes, on a aussi trouvé un effet de stress relativement fort. Donc, la performance a été augmentée ou diminuée dans la condition stress pour les deux conditions de cible. Tandis que chez les personnes âgées, il n'y avait qu'un effet de saillance. Donc, même si on est arrivé à introduire un niveau de stress de manière relativement pareille, les conséquences du stress à la performance dans cette tâche cognitive n'étaient pas les mêmes. Voilà. Donc, ici, on a un effet un peu similaire par rapport à l'étude que je vous ai montrée avant. Avec un autre paradigme, avec une autre émotion, un peu plus contrôlée, très très standardisée. Encore une fois, les jeunes sont ceux qui souffrent, les âgés arrivent à garder leur performance. Voilà, donc c'était les deux questions, les deux lignes de recherche dont je voulais parler. Quelles sont des conclusions générales? Donc, on n'a pas de preuve d'un biais de positivité chez les personnes âgées, au moins chez nous, et ça, c'est vrai aussi pour d'autres labos. Quand même, il y a une forte discussion là-dessus, mais nous, on ne trouve pas très, très souvent un biais de positivité chez les personnes âgées. Mais on trouve que les informations émotionnelles interagissent clairement avec la cognition liée à l'âge. Donc, l'effet du renforcement émotionnel de la mémoire est aussi trouvé dans la mémoire prospective. Et il y a une interaction probablement très complexe entre le type de tâches, les valences, l'humeur, ressources individuelles. L'âge semble modérer l'interaction entre l'émotion et la mémoire prospective. Et, good news pour. Les gros messages sont les personnes âgées peuvent bénéficier de matériaux émotionnels et sont moins troublées que les jeunes adultes par les états de l'humeur ou du stress aigu, probablement à cause de leur capacité de réguler l'émotion et le stress. Il faut vraiment le montrer de manière expérimentalement. Actuellement, on a seulement un peu des observations et des résultats, des patterns un peu parallèles, mais ça c'est une question qu'on attaque actuellement. Voilà, merci pour votre attention.
Merci Mathias, alors on a beaucoup de temps pour les questions. Donc, je vous invite à vous poser vos questions.
Merci pour cette conférence intéressante. Moi, j'avais une question par rapport aux conséquences que vous avez présentées. Alors, je trouve que, par exemple, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça me conforte dans l'idée que j'appelle mes parents plus souvent pour leur demander de l'aide sur les questions émotionnelles. Ouais. Les problèmes auxquels je peux faire face au quotidien. Donc, c'est, je trouve ça positif dans le sens où c'est un transfert. Quel est l'avantage pour les personnes de... Qu'est-ce qu'on pourrait faire lorsque vous avez tout pour rendre leur vie commune?
Moi, j'ai deux réponses par rapport aux deux lignes de recherche. La première ligne montre que si on utilise les informations plus motivantes, plus pertinentes, plus émotionnelles, on arrive même au labo à une performance beaucoup plus élevée. Donc, si on a des tâches importantes, des intentions pertinentes et on reste sur une manière très très neutre, on perd probablement un peu la capacité qu'on pourrait montrer avec des cibles. Donc, si on crée des outils pour aider les personnes âgées à se rappeler, à faire des choses, par exemple, ça montre clairement si on utilise les émotions un peu plus émotionnelles, comme les indices, les smileys, je ne sais pas, des photos qui sont un peu plus motivants, un peu plus positifs.
D'associer le magnétisme, la chose à se rappeler, disons,
ouais.
Avec quelque chose d'émotionnel.
Oui, par exemple, oui, tout à fait.
C'est pas que l'événement.
Oui, par exemple. Donc, en parenthèse, possiblement, on ne sait pas beaucoup, à mon avis, comment ça marche dans la vie quotidienne. Donc, ça, c'est toujours au labo, mais même au labo où on trouve. Très régulièrement un déficit cognitif, on peut augmenter, voire quelquefois éliminer un déficit si on utilise des matériaux un peu plus émotionnels, disons motivants peut-être, on ne sait pas exactement. Donc, mais la majorité des études sur la mémoire en général, au labo, on utilise des matériels très très neutres, très motivant. Donc ça, on montre là, on peut changer, on peut jouer un peu avec le niveau de performance, même dans des tâches très complexes au labo, qui sont des tâches plus artificielles. La deuxième chose, c'est d'encourager les personnes âgées d'utiliser leurs compétences dans la régulation d'émotions, leurs compétences où ils montrent vraiment ils ont des compétences qui sont plus hautes, plus performantes que les personnes âgées. Donc, de temps en temps, c'est déjà utile de montrer qu'il y a des domaines, qu'il y a des aspects dans la vie où on est vraiment expert. Pas automatiquement, peut-être une personne sage, je ne sais pas, mais on a des avantages et on peut utiliser ces compétences pour aussi montrer un niveau de fonctionnement relativement stable ou même élevé.
J'ai une question sur ces relations entre photos et jugement et tout ça.
Ouais.
Est-ce que vous contrôlez que la personne qui considère que si vous croyez
ouais.
que la photo inspire une émotion positive
oui.
ou négative, est-ce que
hein?
vous contrôlez que c'est juste pour cette personne?
Pas tout le temps, mais c'est contrôlé dans plusieurs études. Donc, il y a des bases de données où on a des normes un peu qui montrent que normalement. Je vois votre point. Donc, c'est dans plusieurs études, on a après. Contrôler si on juge
les photos plutôt positives, négatives. Pas tout le temps, mais c'est fait. Mais il y a des grandes études qui montrent qu'en général, ça provoque des émotions positives, négatives. Une chose qui est liée à ça, qui est importante, il y a quelques années, commencé à faire des études de normes aussi avec les personnes âgées. Donc, à l'époque, la majorité de ces études ont utilisé plutôt les personnes jeunes pour créer ces normes. Par exemple, ces visages, à l'époque, étaient plutôt les visages mis à des personnes jeunes ou mi-âgées. Mais maintenant, ils existent. À Berlin, ils ont développé des bases de données avec les visages aussi des personnes âgées pour faire un match entre les participants et les stimuli. Mais pour répondre à la question, donc, pas dans chaque étude, mais dans plusieurs études, on a après vérifié que l'évaluation sont des stimulés effets juste pour la personne concrète.
Parce que les personnes, ils peuvent avoir des réactions opposées, oui, sur la même photo.
Oui, oui, tout à fait.
Par exemple, si un collectionneur d'armes, ouais, voit le pistolet,
non, je vois.
Il,
oui,
peut,
oui,
avoir...
Oui, 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 oui. Non, non, absolument. Donc, les deux réponses que je peux vous donner sont... On a des bases de données très, très larges où c'est testé, mais de temps en temps, on a testé ça de manière individuelle aussi. Oui.
Je m'interroge sur les conclusions que vous avez mises là, parce, oui, que au début, vous dites les informations émotionnelles interagissent clairement avec la cognition liée à l'âge. Donc, il y a une influence.
Oui.
Et puis ensuite, la dernière, les personnes âgées peuvent bénéficier de matériaux émotionnels, ils sont moins troublés que les jeunes adultes.
Oui.
C'est pas une contradiction.
Non. Parce que moi, ça veut dire qu'il y a une interaction. Donc, ça veut dire que les effets de l'humeur et du stress est... Ça varie avec l'âge des personnes. Donc il y a une interaction, donc il y a un effet qui est différent par rapport à l'âge concernant les résultats.
Donc, quelle est la conclusion qu'il faut tirer? Est-ce que les personnes âgées sont plus sensibles aux émotions quand il s'agit de retenir un événement, ou est-ce qu'ils sont moins sensibles?
Ça veut dire un peu... C'est lié à ces deux lignes de recherche. Par rapport à la qualité des informations à traiter, on a vu que les personnes âgées sont plus sensibles. Si on parle de l'état émotionnel dans lequel on est, pendant on traite certaines informations neutres, les personnes âgées sont moins affectées. Parce que ils peuvent réguler leurs émotions d'une manière plus efficace.
Si c'est neutre, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'émotions.
Donc, l'état des personnes. Donc, c'est pour ça, dans la première ligne de recherche, on a manipulé seulement la qualité des informations à traiter, mais l'humeur des participants était relativement stable, relativement neutre. Donc, on n'attend pas qu'on provoque vraiment des grands changements avec ces photos. C'est plutôt... l'information à traiter. Donc, il faut se rappeler à aller chez le dentiste. Donc, c'est une tâche plutôt négative pour la majorité, probablement. Il y a probablement des différences individuelles ou de déposer son déclaration des impôts, des choses. Donc, mais il faut traiter les informations qui sont émotionnellement différentes. Et l'autre ligne... essayer de garder l'information à traiter d'une manière neutre, donc il y avait des tâches relativement neutres, mais l'humeur des personnes a été changée avec les vidéos et le stress. Et ce qu'on trouve est l'interaction entre cognition et émotion des ponts à ces deux lignes de recherche. Donc les personnes âgées sont plus affectées, disons, par rapport à au traitement des informations émotionnelles, mais elles sont moins affectées par rapport à une influence du stress ou de l'humeur. C'est plus clair?
Vous parlez d'humeur, vous
ne
parlez pas d'émotion.
Non, non, oui, oui, si. Donc, une chose, c'est l'émotion des informations à traiter, et l'autre, c'est notre état actuel.
Ça, vous appelez l'humeur.
Humeur ou stress, ou donc on a dans ces deux exemples, il y avait l'humeur et du stress. Donc on a essayé de séparer les deux un peu. Bien sûr, on peut envisager une expérience similaire à laquelle je vous ai montré dans la dernière expérience, où on utilise aussi des émotions pour manipuler des stimuli. Il y a certainement aussi des interactions, mais ça, je n'ai pas montré et ça, on n'a pas fait.
Est-ce que vous l'associez plutôt vraiment à un processus compensatoire de par les pertes cognitives chez la personne adulte, ou bien au nombre d'événements vécus, à la fréquence de rencontres d'événements négatifs qui auraient donc moins d'impact parce qu'elles sont accompagnées?
Donc, par rapport à au développement de la sagesse aussi?
Oui. Est-ce qu'une personne âgée, c'est par rapport au nombre de fois où elle a vécu des événements négatifs, qu'elle a acquis une dextérité, ou bien
C'est une très bonne question. Alors, moi, personnellement, et ce que je vois dans la littérature, ce sont plutôt les événements où il faut trouver des solutions un peu non standardisées qui sont responsables pour le développement de la sagesse. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt quelque chose qu'on peut développer aussi relativement tôt dans la vie. Et ce n'est pas seulement l'âge qui est responsable pour ça. Mais comme je vous ai dit, ce concept-là qui a été utilisé pour tester cette hypothèse, c'est un concept très, très cognitif pour mesurer la sagesse. Et je pense qu'il faut ajouter plutôt les compétences émotionnelles qui sont aussi liées à ce qu'on parle, si on parle de la sagesse. Mais dans ces tâches qu'on utilise pour mesurer la sagesse, ce sont plus plutôt des scénarios où il faut trouver des solutions. Si la régulation, l'efficacité de la régulation d'émotions est liée plutôt aux événements qu'on a vécu ou à l'âge directement, je ne sais pas. Comme on trouve, ça c'est vraiment un effet principal de l'âge, donc les personnes âgées en moyen, il y a toujours des exceptions, qui développent une capacité augmentée dans la régulation de l'émotion, qui est plus fort que l'effet de l'âge qu'on trouve sur la geste. Ça doit être lié un peu plus à l'âge. Parce que sinon, probablement, on trouve un peu la même chose. Donc, mais on ne sait pas. Donc, quels sont les facteurs, les raisons pour lesquels on trouve l'avantage de l'âge lié à la régulation d'émotions, on n'a aucune idée. On ne sait pas. C'est une bonne question.
Oui, j'avais aussi une question. C'est probablement en rapport avec ça, c'est par rapport au schéma que tu as présenté
sur les deux stratégies adaptatives.
Oui.
Bon, moi, ça m'a fait tilt par rapport à la théorie cagécienne. Parce
oui.
que la théorie cagécienne, c'est un mécanisme où on transforme le monde,
oui.
on attaque le monde,
oui.
on
oui.
déforme, c'est l'assimilation.
Oui.
Un autre mécanisme qui est le contraire,
oui.
on se déforme soi-même
voilà.
pour. C'est la part de l'expérience.
Oui. oui.
Et je me demandais deux choses. D'une part, si. Ça ne t'intéresserait pas peut-être aussi d'avoir, en tout cas au moins des analogies, à défaut
ouais.
d'explications,
ouais.
du fait que Piaget parlait du développement en disant toujours il y a le primat de l'assimilation, mais pour lui le développement,
ouais.
c'est le développement de l'enfant.
Ouais. Oui, oui, tout à fait.
C'est le début du développement.
Ouais.
Et peut-être à la fin du développement, au fond, ça serait peut-être un primat d'accommodation.
Absolument.
Primat, donc il y aurait oui. peut-être un modèle unitaire à chercher.
Oui.
Et ma question, c'est simplement est-ce qu'il y a des auteurs qui ont réfléchi en ces termes-là?
Oui. Oui, il y a un modèle très très similaire à ce modèle de contrôle primaire secondaire, c'est le modèle développé par Brandstetter et collègues, et ils utilisent exactement ces deux concepts. Bonne hypothèse qui est tout à fait acceptée dans la littérature. Mais c'est peu, à mon avis, c'est relativement pareil. Il y a des différences dans les détails, mais tu as tout à fait raison. Donc c'est
d'autres questions? On ne sait plus d'autres questions, on va encore une fois remercier la classe. Et je vous invite à venir mardi prochain à écouter Claude Müller, qui est professeur à Neuchâtel, et qui va nous parler d'écologie et aborder les mêmes questions, mais chez les grands singes. Venez nombreux. Quand le titre est en anglais, la conférence est voilà.
Tu veux que je fasse ton tâche ?